On va continuer l'étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines qui parle sur l'appel du berger. Bon, la semaine passée, j'ai parlé comme quoi que Dieu est intéressé de renouveler son appel avec tous les rétrogrades. Ceux qui ont abandonné le Seigneur est prêt à lui tendre les bras et de les renouveler dans sa vision pour que les gens puissent s'accrocher aux promesses de Dieu puis revenir au Seigneur parce que on ne doit pas, en tant que chrétien, mourir séparé de Dieu. C'est plus pire que de jamais avoir connu. Parce qu'il y a un verset qui nous dit dans la parole de Dieu qui dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première, fait que l'état est pire, puis les conséquences aussi que ceux à qui qu'on avait donné beaucoup, on va demander beaucoup, puis à ceux qu'on a donné peu, on va demander peu. Puis le Seigneur, il veut que ceux qui ont reçu puissent demeurer dans ce qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, le message, c'est encore toujours au niveau de la vision. Dieu veut qu'on élargisse puis qu'on étende notre vision. Il veut qu'on fasse en sorte qu'on s'élargisse dans notre esprit, dans notre pensée, face à la vision de Dieu. Qu'on l'agrandisse puis qu'on l'étende. Parce que ça arrive des fois dans notre vie chrétienne, dû, mettons, à des souffrances, des problèmes qu'on a vécu, des rejets, des sortes de choses qui font qu'on s'est refoulé et on est rendu avec comme une piètre image de nous-mêmes. Puis à cause de ça, on pense que si moi je me vois pas à la hauteur comme Dieu me voit, là, puis je me vois petit, je pense que Dieu me voit petit et que Dieu a rien pour moi. Mais en réalité, Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde travaille dans son œuvre, mais il veut qu'on élargisse notre vision. Il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 54, le verset 2, ça nous dit, et ça c'est un verset qui est comme un message prophétique, qui nous parle à nous aujourd'hui. Ça dit, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que Dieu nous demande d'élargir notre tente. Il veut qu'on ait une vision plus grande que qu'est-ce qu'on a. Des fois, quand on a un petit lieu, une petite demeure, on fait notre petite vie, nos petites affaires, puis qu'on voit tout en petit, c'est plus facile à contrôler, c'est plus facile à sentir qu'on maîtrise la situation. Mais Dieu veut pas qu'on reste avec des petites idées. En tant que chrétien, il veut qu'on élargisse notre vision. Parce que son œuvre est grande. Puis il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Puis Dieu veut qu'on élargisse l'espace de notre tente. Il dit qu'on déploie la couverture. Ça veut dire, agrandis même la couverture. Bâtis un deuxième sur ta maison. Agrandis. Puis il dit, retiens pas. Parce que souvent, on est porté à retenir. À retenir, puis à se retenir, puis on empêche Dieu de nous faire prendre de l'expansion. Mais il veut qu'on s'élargisse, puis qu'on agrandisse par le haut, puis par la largeur. C'est ça que c'est en train de nous dire. Défais la couverture, agrandis le haut, puis allonge tes cordages, parce que ta tente, là, ça a grossi. Mets-toi des plus gros câbles, puis rallonge-les tes câbles pour bien l'ancrer solidement, puis affermis tes pieux. Prépare-toi à ce qui se passe encore plus d'activités dans ta maison. Ben, vu que tu as une plus grande maison, tu vas pouvoir accueillir plus de monde, puis il va y avoir plus d'action. Mais dans la vision de Dieu, c'est un peu la même affaire. Dieu veut qu'on élargisse nos idées, il veut qu'on accumule des pensées qui sont de sa parole, pour méditer sa parole, réfléchir sur son œuvre, puis s'investir, agrandir notre champ d'horizon, puis notre champ d'action. Qu'on élargisse nos cordages, qu'on ait une grande vision pour son œuvre. Si pour nous, on a un petit Dieu, on a une petite vision. Mais si tu as un grand Dieu, ben, aie une grande vision, parce que Dieu, c'est un Dieu de grandes choses, qui est capable d'en faire de grandes choses. Mais il y a des fois, j'avoue, qu'on a des moments de dépression, des moments de découragement. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux chrétiens. C'est arrivé à du monde dans la Bible aussi, des moments de dépression, puis de découragement. Puis ça a fait qu'ils ont eu une vision pessimiste d'eux-mêmes puis de l'œuvre de Dieu. Il t'a rendu découragé. Pas juste que ça te tente pas ou que t'as pas la force. T'es découragé, t'es dépassé par les événements, puis t'as plus le goût d'avancer, puis tu penses, là, tu vois même plus les choses de la vraie façon. Tu penses que t'es, comme dans le cas de l'histoire qu'on va aller lire, là, ce personnage-là, il pensait qu'il était rendu tout seul pour combattre dans l'œuvre de Dieu. Il a fait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Quand il a eu sa pause de découragement, il pensait qu'il était rendu tout seul, puis il voulait mourir, tellement qu'il était découragé. Mais ça peut arriver que notre découragement ou une petite dépression fasse que on tombe sur un down et on n'a plus de vision pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, ce soir, il veut renouveler notre vision. Il veut qu'on ait une grande vision, qu'on élargisse notre vision, qu'on s'étende dans notre vision, qu'on voit que l'œuvre est bien plus grande que ça, que qu'est-ce qu'on voit présentement. Et Dieu veut faire des choses encore plus grandes. L'histoire qu'on va aller lire, c'est l'histoire du prophète Élie dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 roi au chapitre 19. Puis ça, c'est un bon exemple justement de ce sujet-là qu'on est en train de voir ce soir. C'est un gars de grande vision. Il a accompli des choses que nul autre a faites. Comme par exemple, seul, il est allé voir le roi, puis il a dit au roi, « C'est toi qui jettes le trouble dans le pays, parce que tu vis dans le péché, puis ta femme a fait des faux dieux, la reine avait des faux dieux, elle avait fait des temples dans le peuple d'Israël, elle avait fait des temples pour Baal, puis pour Astarté, pour entraîner le peuple juif à se prostituer devant des idoles, puis à servir des faux dieux. » Puis Élie, c'était pas un gars qui avait froid aux yeux, c'était un gars qui était décidé. Lui, c'était « Je sers l'Éternel, pour tout de là, puis tu vas... » Il a pas peur. Il fonçait avec son Dieu. Puis là, Dieu l'avait envoyé pour aller voir le roi, puis il dit d'arrêter ça, toutes ses idoles. Puis là, Élie a mis les prophètes de Baal, puis les prophètes d'Astarté, il était 850 faux prophète devant lui. 850, pas un, pas deux, 850 personnes devant lui. Lui était tout seul. Là, il a dit à tout le monde devant le roi, devant tout le peuple d'Israël là, qui était rassemblé dans ce lieu-là, il a dit, « Là, aujourd'hui, on va savoir c'est qui est Dieu en Israël. » Il a dit aux faux prophètes, « Vous allez faire un autel, vous allez sacrifier un taureau dessus, puis là, vous allez invoquer votre Dieu afin que votre Dieu il fasse consumer l'Holocauste, le sacrifice que vous avez fait là. Puis moi, je vais en faire un, moi aussi, un autel, puis je vais mettre un taureau dessus. Puis le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu du ciel puis consumer l'Holocauste, mais c'est lui qui est Dieu en Israël. » Fait que les 850 faux prophètes, ça se mutilait, ça criait, ça faisait des danses, ça essayait de faire des incantations pour que leur Dieu puisse consumer l'Holocauste, puis il se passe à rien, puis le prophète Élie, il est nargué un peu, puis il lui dit, peut-être que, criez un peu plus fort, peut-être que votre Dieu, il est sourd, ou peut-être qu'il est parti en vacances. Il n'a pas peur, là, 850 faux prophètes devant lui. Là, il les a nargués, puis après ça, là, quand ils ont passé la journée là-dessus, là, wow, ça fait. Là, quand il est arrivé, là, c'était à mon tour, prenez des chaudières d'eau. Il dit, creusez un fossé tout le tour de mon offrande. Prenez des chaudières d'eau, arrosez le taureau, jusqu'à temps que les fossés soient pleins d'eau. Fait que là, un taureau là, qui est offert sur un paquet de bûches là, de bois, puis ils ont creusé tout le tour, puis ils ont arrosé ça jusqu'à temps que c'était à trempe. Là, Élie, pour montrer que c'est un homme de grande vision, il s'adresse à son père dans les cieux, puis il dit, « Seigneur, montre-lui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » En disant ça, le feu a descendu du ciel, qui a consumé l'Holocauste, il a tout brûlé le bois, le taureau, puis toute l'eau qu'il y avait dans le fossé a été consumée d'une shot. Puis là, après ça, Élie, le prophète, lui-même a tué les 850 personnes en les égorgeant. là, c'est comme si Dieu venait de remporter une grande victoire, puis tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Sauf que, juste après, la femme du roi Achab, apparemment, elle n'était pas là, mais quand elle a su ça, peut-être que ça ne tenta pas de se déranger parce à la convocation que Élie avait faite. Puis là, elle dit, c'est là qu'on rentre dans le texte qu'on va aller lire, Achab, il rapporta à Jézabel tout ce que ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie, de ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, en voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt, un arbre, ça. Il demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Là, on est en train de parler du plus grand prophète, un des plus grands prophètes, pas le plus grand, mais un des plus grands prophètes qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Élie, il a eu plein de miracles dans sa vie. Lui tout, il a pris dans le nom de l'Éternel en frappant l'eau. L'eau s'est retirée. Il a frappé l'eau avec son manteau, puis ça a fait la même chose que ça a fait avec Moïse. Il y a eu des résurrections dans son ministère, des personnes qui sont ressuscitées. Il y a eu des miracles de multiplication des pains. Il y a eu ce miracle-là que le feu de Dieu a descendu du ciel et a consumé l'Holocauste. Il a tué les 850 prophètes, puis là, il y a une femme. La femme, la reine, Jézabel, une méchante femme, a fait une menace à Élie, puis Élie a eu peur. Puis Élie s'est sauvé. Pourtant, c'était Élie, mais Élie était rendu d'une dépression. Il était rendu plus capable de combattre contre l'ensemble de tout le monde. On va voir dans la suite de son histoire comment est-ce qu'il raisonnait. Il s'est en allé pour sauver sa vie. Pourtant, avant, il n'avait pas peur pour sa vie. Il savait que Dieu était pour le délivrer. Mais quand tu pognes une déprime, quand tu pognes des découragements, tu n'as même plus confiance que Dieu va encore sauver ta vie. Tu tombes sur un dâme, tu n'as même plus l'impression que Dieu est avec toi. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Pourtant, il était avec toi la veille, puis le lendemain, tu penses que Dieu il est plus intéressé à s'occuper de toi. Un aveuglement, un découragement peut nous faire perdre la vision de comment ça marche avec notre communion avec Dieu. Puis là, on commence à avoir des peurs, puis on a peur d'avancer, on a peur de faire ce que Dieu nous demande, on a peur de servir, on a peur d'en s'engager, puis faire des responsabilités dans l'Église, on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de témoigner pour parler de Jésus, on a peur de prier tout haut, à voix haute dans la réunion, on a peur de chanter fort parce qu'on a peur que le monde nous voie, on a peur, on a peur, on a peur, c'est des peurs. Puis Élie, lui, quand il a eu peur, il s'est sauvé. Puis il était tellement sur un down qu'il était rendu dépressif au point de vouloir mourir. Puis là, il se regardait, puis il dit à Dieu, « C'en est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était tellement découragé qu'il était rendu avec une piètre image de lui-même. Il se dépréciait. Pourtant, Dieu, quand il nous parle à nous, il nous dit, tu es précieux, tu es ma brebis, tu m'appartiens, je t'aime, je vais prendre soin de toi, je vais pourvoir à tes besoins, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, il y a plein de versets qui nous dit pour essayer de nous encourager, puis quand on se regarde, on regarde notre vie, on regarde ce qu'on a de l'air dans le miroir, ou on se regarde physiquement, ou on se regarde dans nos efforts pour Dieu, puis on se sent découragé, puis on sent pas que Dieu est avec nous, puis on se dit, ben je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas capable de faire rien. on se déprécie au point qu'on n'a plus de vision à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. On n'ose plus rien faire. Mais ce qu'il y a de bon, par exemple, dans ce verset-là, c'est que Élie a partagé ses problèmes avec Dieu. C'est là qu'il s'est adressé à Dieu. « Maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que toi. » C'est ça qu'il faut arriver, que même dans des moments de découragement, il faut parler à Dieu. Si on est tellement découragé au point qu'on ne veut même plus parler à Dieu, là, c'est grave. Nos chances de s'en sortir sont minces. Mais si on commence à s'adresser à Dieu, qu'on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose, Dieu va faire quelque chose pour te montrer qu'il est encore avec toi. Puis que Dieu va te montrer qu'il est avec toi, puis qu'il t'aime, puis qu'il veut t'amener à avoir une vision plus grande de ce qu'il est, puis de ce qu'il veut que tu fasses. Élie a partagé ses problèmes avec Dieu. Puis des fois, il est nécessaire qu'il y ait une intervention de Dieu pour renouveler nos forces et notre vision. Quand on est dans une dépression ou dans une période de découragement, il est nécessaire qu'on s'adresse à Dieu pour que Dieu intervienne pour venir renouveler notre force puis notre vision. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce passage-là, dans la suite de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour renouveler la vision d'Élie? On continue, on est rendu au verset 5 de 1 Roi au chapitre 19. Là, ça nous dit qu'Élie s'est couché, il s'est endormi sur un genêt. Puis là, il y a un ange qui l'a touché. Puis il dit, lève-toi et mange. Là, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit et des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce petit exemple-là? C'est que ce gars-là était rendu découragé. Il était rendu dans une dépression. Il était prêt à désirer la mort, à dire que ça en était fini. Il n'avait plus d'idée de juste de ce qui valait aux yeux de Dieu. Puis il n'avait plus d'idée non plus sur le plan de Dieu. Puis là, il en parle avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour le fortifier, il a envoyé un ange. Il a envoyé un ange. Puis l'ange, il a donné de quoi pour se nourrir puis se désaltérer. Il a donné ça deux fois. Ça l'a fait, ça lui a tellement donné de force et d'énergie, cette nourriture céleste-là qui lui a été donnée, qu'il a été capable de marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. C'est quoi cette montagne-là? C'est la montagne de Dieu, où ce que Dieu avait apparu, où ce que Dieu apparaissait, où ce que les gens pouvaient rendre un culte à Dieu sur la montagne. Il a eu la force, à cause de la nourriture que l'ange lui a donnée, de marcher pendant 40 jours jusqu'à temps qu'il arrive en haut de la montagne pour aller parler à Dieu. Dans nos vies, si on a des moments de découragement puis de dépression, puis on a perdu la vision de Dieu, il faut en parler avec Dieu. Puis demander à Dieu de venir nous renouveler. Dans cela. Puis Dieu va faire des choses qui sont nécessaires, qui doivent être faites par Dieu lui-même pour pouvoir nous restaurer, nous donner des forces, puis qu'on soit capable de marcher jusqu'à temps qu'on atteigne l'endroit où parler avec Dieu. On continue l'histoire. Quand il est arrivé à la montagne, dans 1 Roi 19, le verset 9, il entra dans la caverne, il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Là, Dieu commença à lui parler. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et là, il sort de la grotte, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, il brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit puis se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix fit entendre ses paroles. « Que fais-tu, Élie? » Là, on voit que il y a comme quelque chose qui devait être dealé entre Élie et Dieu. Dieu demandait des comptes à son serviteur. Il est en train de dire, « Qu'est-ce que tu fais ici? » En voulant dire, Dieu voulait que Élie lui raconte ce qu'il y avait sur son cœur. Là, il est en train de raconter que lui, Élie, il a déployé son zèle, il a tout fait pour que Dieu puisse être glorifié, puis il a parlé au peuple d'Israël, puis le peuple d'Israël a tué tous les autres prophètes de l'Éternel, puis que là, le reste du peuple cherchait à lui enlever la vie, puis pourtant, il y avait une femme qui avait dit une menace de mort. Là, il dit, là, Dieu, il a commencé à manifester des signes pour montrer sa présence, pour montrer qu'il était là. Puis là, il y a eu un gros vent, que les montagnes étaient arrachées par le vent, tellement que c'était un vent extrêmement puissant. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu du feu, puis Dieu n'était pas là-dedans. Ça n'a pas effrayé Élie du tout. Puis après ça, ça dit, il a entendu juste un petit murmure. Puis quand il a entendu ce murmure-là, il s'est caché la face parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans ce petit murmure-là, doux et léger. Dieu est en train de montrer à Élie pourquoi tu t'énerves avec les grosses affaires qui se produisent dehors. Il y a des versets qui nous disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi s'en faire avec les grosses affaires de la vie? Quand ce n'est pas des choses que Dieu est là-dedans, c'est tout du bruit. Ça ne te fait rien. Les montagnes peuvent se faire arracher devant toi, ça ne te touche pas. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Mais Dieu, là, quand il te parle, même si c'est dans un petit murmure, tu peux être reviré à l'envers au point d'aller te cacher. Comme Élie a fait. Quand il a entendu la voix dans un petit murmure, il s'est caché. La voix de Dieu est plus puissante que tous les vents qui arrachent les montagnes. Puis Dieu voulait y montrer, t'es mieux d'avoir de la crainte de moi plutôt que de la crainte de tout ce bruit-là qui est autour dehors. Fait que là, il redemande encore, qu'est-ce que tu fais ici? Là, on est rendu dans 1 Roi 19, le verset 14, puis il y répond encore à Dieu. Et j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Là, il raconte encore la même chose. Puis là, l'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Là, Dieu est en train d'y renouveler sa vision. Il est en train d'y dire encore des tâches à faire. C'est ça qui est le point. Quand la Bible, que j'ai dit tantôt, élargis ta tente, déploie ta couverture, ne te retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes tues. Aie une vision qui grandit. Si tu poses un découragement, confie-toi à Dieu. Dieu va faire des choses surnaturelles. Puis que tu vas sentir sa présence qui va être là, puis Dieu va renouveler ta vision, puis il va te remontrer, va. Retourne-là, puis là il a dit, va, retourne-là, mais que tu es arrivé, tu vas oindre telle personne pour être roi, tu vas aller oindre une autre personne pour être roi, l'un c'est le roi d'Israël, l'autre c'est le roi de la Syrie, tu vas oindre Élisée pour qu'il devienne prophète à ta place. Puis là, il parle, Dieu parle de jugement qu'il était pour faire à travers de ces deux rois-là et du prophète Élie sur l'ensemble du peuple juif qui s'était rebellé. Et Dieu console Élie dans une parole au verset 18 et dit « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et donc la bouche ne les a point baisés. » C'est que Dieu t'a pas envoyé le jugement sur le peuple avec l'onction qui était remise sur ses serviteurs, qu'il y devait aller le oindre des gens pour un ministère de jugement. Puis Dieu il a dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il disait, je suis resté moi seul. C'était pas vrai, c'était une fausse image de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y en avait 7000 des Juifs qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, puis qui continuaient à servir l'Éternel. Puis que ces gens-là étaient pour être là, en train de servir l'Éternel, tous les autres étaient pour être jugés. Fait que quand tu tombes dans une dépression, puis que tu perds la vision de Dieu, t'es rendu avec une piètre idée de ton image, tu dis, je suis pas meilleur que les autres, puis après ça, tu penses que t'es tout seul sur la terre qui sert dans l'œuvre de Dieu. Oh, je suis resté moi seul. Non, c'est pas vrai, ça c'est une fausse idée. C'est des faux raisonnements. C'est pas la vérité. Mais quand Dieu te renouvelle de ton âme, il manifeste des signes, des prodiges, des miracles dans ta vie pour te renouveler. Il va te redire, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Puis même, il l'a même confirmé qu'il y en avait encore 7000 qui étaient comme lui en train de servir Dieu. Il n'est pas tout seul. Il te renouvelle dans les vraies idées, dans la vérité. Quand tu as un rafraîchissement de la présence de Dieu, ça te ramène à constater la vérité, puis ça renouvelle ta vision. Si on veut être renouvelé dans notre vision, si on veut avoir la vision de Dieu, si on veut avoir une vision plus élargie de l'œuvre de Dieu pour nous, il faut le demander à Dieu tout simplement. Je vais vous donner un exemple que Dieu nous appelle à voir plus grand. Il y a des choses que Dieu nous a données pour nous aider à voir plus grand. Si je prends une feuille de papier, une grande feuille de papier, là, puis je fais un trou dedans, un trou la grosseur d'une pièce ronde, si je regarde dedans le trou, là, à une distance d'un pied, je vois pas grand-chose. Plus que je vais rapprocher la feuille de moi, plus que le trou, c'est comme si je voyais plus grand. Pourtant, c'est le même trou, mais ma vision s'élargit en regardant dans le trou. C'est le même trou, mais plus que la feuille à l'avance de mes yeux, plus que je voyais grand à travers du trou. Mais ça, c'est un exemple pour nous montrer qu'il y a des choses que Dieu nous a données pour agrandir notre vision. Il faut s'approcher de deux choses dans notre vie, si on veut que notre vision s'agrandisse. Plus qu'on va s'approcher de ces deux choses-là, plus que notre vision va voir grand à travers ce trou-là. La première, c'est le psaume 119, le verset 130. Ça nous dit, « La révélation de tes paroles est claire. » Elle donne de l'intelligence aux simples. Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset-là? La révélation de tes paroles est claire. Ça veut dire que quand on catche les idées de la parole de Dieu, ça c'est des révélations, Dieu nous révèle sa parole. Qu'est-ce qui se produit quand la parole de Dieu nous est révélée? Ça nous éclaire. Ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'on voit plus clair. On a une meilleure visibilité. Quand la lumière est allumée, tu vois clair. Mais si on s'approche de la parole de Dieu comme si on approche le trou de nos yeux, on va voir plus grand. Si on s'approche de la parole de Dieu puis on se met à lire la Bible, là, puis la méditer, mais les révélations qu'on va voir là-dedans, ça va nous éclairer. Ça va nous faire comprendre la vision de Dieu. On va voir plus grand la vision de Dieu. Si je tiens la Bible loin de mes yeux, je n'aurai pas une grosse vision de l'œuvre de Dieu. Mais si j'approche la Bible de mes yeux, puis je me mets à la lire, puis la méditer, puis Dieu me donne des révélations, je vais être éclairé. Je vais voir plus clair. Ma vision va m'être même meilleure. Je vais voir le plan de Dieu, puis ça nous dit que ça donne de l'intelligence aux simples. Même quelqu'un qui est simple, s'il se met à lire la Bible, à étudier la Bible, les révélations de la Bible, va le rendre intelligent. Voulons-nous une plus grande vision? On veut-tu élargir notre tente? Mais il faut se mettre à lire la Bible, puis aller puiser dans la Bible pour pouvoir avoir les révélations. Mais il y a un autre endroit aussi, une autre chose que Dieu nous a donnée qui peut nous éclairer. Ou nous permettre d'être éclairés. Dans Éphésiens 1:16, c'est le dernier verset pour ce soir, Paul est en train de nous dire dans ce verset-là, « Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera. Et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent? Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Le deuxième moyen pour s'approcher, c'est dans la prière. Paul il dit, « Je remercie Dieu à votre sujet, mais je pense à vous dans mes prières, et je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de vous donner. » Il est là le secret. « Demandez à Dieu de donner. » Faut prier pour avoir une vision plus claire. Faut prier pour voir plus clair l'œuvre de Dieu. Faut prier pour que notre vision s'élargisse et elle s'agrandisse, puis que Dieu nous révèle les choses qui vont nous permettre d'avancer dans sa vision. Ça dit, il prie qu'il y ait un esprit de sagesse qui nous révèle Dieu, puis qu'il nous le fasse vraiment connaître dans une relation personnelle. Il prie pour que nos yeux s'ouvrent à sa lumière, puis qu'on puisse comprendre c'est quoi l'espérance qu'il nous a donnée. Il prie pour qu'on comprenne c'est quoi la richesse, la splendeur des biens qui nous sont destinés. Parce qu'il y a des biens. Il y a des biens qui nous sont destinés. Il y a des récompenses. Puis il veut qu'on comprenne aussi le verset 19, quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose, dont Dieu dispose pour les croyants. On a besoin d'avoir une vision élargie de la puissance de Dieu que Dieu a pour notre disposition. Dieu a déjà envers nous le désir de manifester sa puissance, mais si je ne le vois pas, ça, faut que ma vision s'élargisse pour que je vois c'est quoi la grandeur de la puissance que Dieu veut manifester avec tant de force. C'est ce que Dieu manifeste. Il a manifesté à travers Jésus. C'est ce que Dieu a manifesté à travers des apôtres et des disciples dans les actes des apôtres. C'est ce que Dieu veut faire à travers de nous, manifester sa puissance. Puis qu'une fois qu'on va être inspiré de sa révélation puis de sa puissance, on va aller de l'avant dans une vision éclairée, élargie. Puis même encore un secret, il faut réfléchir, méditer à cette parole de Dieu-là qui nous est donnée. Puis pendant qu'on réfléchit et qu'on médite tout ce que Dieu a fait dans notre vie, ou tout ce que Dieu a fait dans la vie des apôtres, et imaginer tout ce que Dieu peut faire dans notre propre vie, mais pendant qu'on est en train de s'imaginer ce que Dieu peut faire, parce qu'il l'a déjà fait, on est en train d'élargir notre vision. Parce que quand on y pense pas à ce que Dieu peut faire, on ne voit rien de la vision. Mais quand on la médite, sa vision, on la réfléchit, tout ce que Dieu a fait avec les apôtres, puis on réfléchit à ce qu'il pourra faire à travers de nous. On est en train de faire progresser la vision de Dieu pour nous dans son œuvre. On va prier. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée, tout l'exemple que tu nous as donné à travers ton prophète Élie et les autres exemples de ta parole. Je te demande, Seigneur, de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir clair, une vision claire de la sagesse que tu as à notre disposition, que tu nous révèles, Seigneur, ta pensée, ton plan, ton but pour nos vies, que tu nous rouvres les yeux à comprendre c'est quoi l'espérance à que tu nous as appelés, c'est quoi la richesse, la splendeur de la richesse des biens que tu as en réserve pour nous, et de nous faire comprendre quelle est ta puissance extraordinaire que tu as pour notre disposition. Ouvre nos yeux, Seigneur, élargis notre vision, puis qu'on ait à cœur d'avancer à marcher par la foi dans ce que tu nous appelles, dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.